France Inter.
Le journal Anaïs Feugat, bonjour Anaïs.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le cyclone Garance fonce sur la Réunion.
Alerte violette déclenchée, c'est le plus haut niveau, tout le monde est confiné, y compris les secours, nous sommes sur place dès le début du journal. Le président ukrainien attendu aujourd'hui à Washington pour signer l'accord sur les minerais. Nous serons aussi avec les Kurdes, soulagés de l'appel à la trêve lancé hier par le fondateur du PKK. La cérémonie des Césars ce soir, nous sommes allés à la rencontre des livreurs à vélo qui figurent dans le film L'histoire de Suleyman et puis une parade des planètes à ne pas louper dans le ciel.
France Inter. Volodymyr Zelensky à Washington pour signer aujourd'hui l'accord sur les minerais.
Nous parlons d'abord de la menace cyclonique qui est très importante, dit Météo France. Depuis une heure maintenant, la Réunion est passée en alerte violette, le plus haut niveau. Même les secours doivent rester confinés. Le cyclone Garance est maintenant tout proche de l'île de l'océan Indien. Bonjour Lola Fourmi.
Bonjour.
Vous êtes à la Réunion à Saint-Leu. On fait le point avec vous ce matin. Les premiers coups de vent violents se font sentir.
Oui, le cyclone Garance arrive déjà sur le nord de la Réunion avec beaucoup de pluie, des rafales de vent et la houle qui frappe notamment le Barachou à Saint-Denis. La houle qui pourrait atteindre jusqu'à 8 mètres selon les prévisions. Les vents, eux, pourraient souffler jusqu'à 200 km/h sur l'île. Ce qui a poussé le préfet Patrice Latron à passer à l'alerte violette ce matin à 9h heure locale. Il s'exprimait depuis Saint-Denis.
Derrière moi, vous voyez la mer déchaînée, les vents qui augmentent. C'est pour cela que j'ai décidé un passage en alerte violette. Et dans l'immédiat, comme l'ensemble des agents de la préfecture, comme l'ensemble des Réunionnais, je vais retourner à l'abri et me confiner, car les conditions se dégradent réellement.
Pour les prochaines heures, il faut donc rester enfermé, ne pas aller regarder dehors ou tenter de rentrer un objet au dernier moment. D'ailleurs, plus personne ne doit sortir, y compris les secours et les équipes techniques. C'est la conséquence de l'alerte violette. Ici, maintenant, on voit l'électricité commencer à vaciller. Dans le nord et l'est, déjà plus de 4000 foyers en sont privés. On espère maintenant un passage rapide qui fasse évidemment le moins de dégâts possible.
Lola Fourmi, depuis Saint-Leu à La Réunion, nous suivrons avec vous l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. François Bayrou n'exclut pas de recourir au référendum sur les retraites si nous étions un jour en situation de blocage, explique-t-il dans le Figaro ce matin. Au lendemain du début des discussions entre partenaires sociaux, le Premier ministre redit aussi refuser d'envisager la baisse des pensions. La retraite est un salaire différé, dit-il. Et puis dans cette même interview au Figaro, François Bayrou annonce aussi qu'il va lancer des conventions citoyennes décentralisées dans les prochains mois pour débattre de la question « qu'est-ce qu'être français ?». Il l'avait déjà évoqué au lendemain de l'adoption par les députés de la restriction du droit du sol à Mayotte. Le gouvernement qui par ailleurs conteste la décision de la justice administrative hier sur l'A69, pour la première fois elle interrompt un chantier d'autoroute pour des raisons liées à la protection de la nature. L'État va faire appel et demande de pouvoir reprendre le chantier, 53 km entre Castres et Toulouse. La décision a été fêtée hier par quelques centaines de personnes sur la place du Capitole à Toulouse. Quant aux riverains de ce chantier, ils sont partagés entre satisfaction et inquiétude. Boris Allier.
La boulangerie d'Émilie est située au bord de la Nationale, à deux pas du chantier, à mi-chemin entre Toulouse et Castres. Autant dire que parmi ses clients, cette décision du tribunal fait réagir.
Alors, j'ai les deux parties. Il y en a qui sont déçus, qui aimeraient l'autoroute, et d'autres qui sont contents. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose que ce soit arrêté.
Pourquoi ?
Déjà pour la nature. Il n'y a plus rien. Là. Ils ont tout détruit, donc les habitats et tout ça, il n'y a plus rien pour les animaux. C'est dommage.
Une destruction de la faune et de la flore déclarée illégale par le tribunal. Les juges considèrent effectivement que les gains apportés par l'A69 restent trop limités. Michel approuve.
Moi, je vais à Toulouse assez souvent. Je ne prendrai jamais l'autoroute. À ce prix-là, c'était la folie.
Pour les actifs et les entreprises, en revanche, l'A69 peut être intéressante, selon Vladimir, gérant d'un garage automobile. Mais il s'interroge maintenant sur l'avenir du chantier.
Je pense qu'ils vont faire un appel d'offres pour remettre tout ça en état. Ça va être encore plus compliqué que ça, quoi. C'est complètement fou.
En attendant, les pelleteuses et autres engins de terrassement restent à l'arrêt, protégés par des agents de sécurité comme Mohamed.
Toute la nuit, on protège tous les zones, on fait des rondes, parce qu'il y a beaucoup de matériel, tout ça.
Et comme lui, ils sont près d'un millier d'ouvriers à travailler sur ce chantier et à attendre un nouveau rebondissement judiciaire.
Reportage Boris Allier. 9 complices présumés de Madame Amra, placés en détention provisoire. Au total, 11 personnes ont été mises en examen hier soir pour avoir participé à des degrés divers à l'évasion du narcotrafiquant en mai dernier dans l'attaque sanglante de son fourgon pénitentiaire qui avait provoqué la mort de deux agents.
7h06, Volodymyr Zelensky à Washington pour signer aujourd'hui l'accord sur les minerais.
Il sera reçu en fin d'après-midi à la Maison-Blanche par Donald Trump, qui n'arrive plus à croire, c'est ce qu'il dit, qu'il l'a traité il y a quelques jours de dictateur. L'accord porte sur la création d'un fonds d'investissement commun dans les métaux et les terres rares, mais le texte ne prévoit pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Pas plus que n'a réussi à en arracher le Premier ministre britannique, reçu lui aussi hier dans le bureau ovale. Donald Trump refuse de se prononcer sur un effort américain pour soutenir des troupes européennes qui seraient envoyées en Ukraine. Il se dit convaincu que Vladimir Poutine tiendra parole en cas de cessez-le-feu et c'est suffisant pour le président américain. En Turquie, des cris de joie et des danses dans le sud-est du pays à majorité kurde après l'appel du fondateur du PKK hier de tourner la page de la lutte armée. Depuis 1984, la guérilla menée contre l'État turc par le Parti des travailleurs du Kurdistan a fait plus de 40 000 morts. Actuellement, ces combattants se sont repliés dans les montagnes du nord de l'Irak, où l'initiative de paix a été bien accueillie dans la ville irakienne de Slemani. Reportage sur place de Luc Alazo.
Des centaines de sympathisants du Parti des travailleurs du Kurdistan sont réunis dans le parc Azadi, le parc de la liberté à Slemani, ville emblématique de la résistance au Kurdistan irakien. On y chante, on y danse, et comme cette femme, on se réjouit du message de paix diffusé sur écran géant.
J'espère que c'est la fin des temps sombres et que le soleil se lève sur les Kurdes. Vive la révolution d'Öcalan.
La déclaration du leader kurde, en prison depuis 26 ans, a été accueillie avec espoir par ce vétéran du PKK qui a lui-même passé plus d'une décennie dans les geôles turques.
Trop de gens sont morts. J'espère que l'initiative présentée aujourd'hui pourra apporter la paix et que les réfugiés pourront rentrer chez eux.
En Irak, les combats ont vidé des villages entiers de leur population et les victimes civiles se comptent par dizaines. Pour Tara Hussein, qui préside un parti fidèle au projet d'Öcalan, il est temps de mettre fin à la guerre.
Si le processus arrive à son terme, ça bénéficiera à tous ceux qui se battent pour la liberté. C'est ça le message d'Öcalan, remplacer le combat militaire par le combat civil et juridique pour les droits des Kurdes. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre avait commencé.
Malgré l'euphorie, la foule reste vigilante, à l'image de Tahour, dont le fils est mort au combat l'année dernière dans les montagnes du Kurdistan.
Le message d'Öcalan est important, mais la Turquie devra donner des gages pour avancer. Vers la paix. Le PKK ne va pas se désarmer juste pour se rendre.
Deux fois déjà, les négociations ont échoué entre la guérilla kurde et la Turquie. Et pour l'heure, les combattants retranchés dans les montagnes d'Irak n'ont pas réagi aux annonces de leur chef.
Luc Alazo à Slemani en Irak pour Inter. On revient sur cette annonce de Öcalan avec Pierre Aski dans Géopolitique. À Rome, un accord arraché à la dernière minute pour le financement de la nature. Fin des derniers jours de la COP16 pour la biodiversité, les pays sont tombés d'accord pour adopter un plan de travail sur 5 ans pour atteindre les objectifs de protection de 30% des terres et des mers, précision dans une demi-heure.
Et puis ce soir, Anaïs, la grande fête du cinéma français. Et
la cérémonie des Césars, hein, 20h45 à l'Olympia, 50e édition qui renouent avec le cinéma populaire, entre Le Comte de Monte Cristo, Un petit truc en plus, Emilia Pérez ou En fanfare, des succès en salle. Le film L'histoire de Souleyman, lui, est nominé 8 fois. Il retrace le parcours d'un livreur sans papier, une fiction ultra réaliste, dans laquelle de véritables livreurs à vélo apparaissent comme figurants pour y jouer leur propre rôle. Laurent Kramer, vous les avez rencontrés dans le 18e arrondissement de Paris.
Sur un bord de trottoir en plein Paris, une dizaine de coursiers à vélo partagent un repas.
Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent ici, quand ils me voient comme ça, ils disent « Ah, moi, je t'ai vu dans le film de Souleymane ».
Noufou joue son propre rôle de coursier comme figurant dans le film. Originaire de Côte d'Ivoire et sans papier, sa vie est tout aussi chaotique que celle du héros du film.
Tu gagnes rien, tu gagnes pas assez, mais tu mets ta vie en danger. C'est chaud, hein.
Si le quotidien de ces figurants n'a pas changé depuis le tournage, le regard porté sur leur situation s'est transformé. Originaire de Côte d'Ivoire, Konaté et Kader apparaissent également dans le film.
Il y a des personnes qui ont compris le rôle des livrets. Les gens qui ont compris que vraiment nous sommes là pour le travail.
Les gens qui ne connaissaient pas la souffrance, la vie réelle de les livrets aussi. Les premières fois même que moi j'ai regardé les films là, tellement que je vois que c'est réel, moi-même j'ai pleuré.
Ça nous a fait couler les larmes. En fait, c'est la réalité d'elle, ce que nous vivons.
Invisible la plupart du temps, cette réalité apparaît désormais parfois à ceux à qui il livre des repas.
Il y a une dame qui m'a vu, elle dit « Ouais, il vient de regarder votre film, vraiment, ça l'a fait pleurer. Elle passait mal de nous, mais on espère que ça va changer. »
Avec l'espoir d'obtenir enfin un titre de séjour après de nombreuses demandes, alors qu'il travaille en France depuis 5 ans pour des plateformes de livraison.
Un reportage Laurent Kramer, et puis on parle des Césars avec tous vos invités, Ali, tout à l'heure à 8h20. Il n'y aura pas de Nutri-Score européen, c'est une l'information de la cellule investigation de Radio France, devant l'opposition en particulier de l'Italie et du groupe agroalimentaire Ferrero, la commission aurait renoncé à l'imposer. Explication dans le journal de 7h30. Une annonce au moment où beaucoup de Français prennent conscience de l'importance de la qualité des produits agricoles, conséquence des mobilisations des agriculteurs des derniers mois, et ça se traduit forcément dans les allées du Salon de l'agriculture. Reportage Mariam El-Kurdi.
Beaucoup de monde et de sourires autour des animaux d'élevage du pavillon 1. La vache égérie, Houppette, limousine de 6 ans, attire de multiples admirateurs.
On aimerait bien s'approcher un peu plus, mais bon, c'est pas évident avec tout ce monde, mais on est bien content de voir sa petite Houppette, justement.
Vous la trouvez comment ?
Bah, Choupette.
Elle est super belle.
Le salon, c'est aussi l'occasion d'échanger directement avec les éleveurs. Celui d'Houppette, Alexandre Humeau, répète le même message aux visiteurs.
De manger français et de manger local le plus possible.
Un peu plus loin, Wissem, parisienne de 32 ans, prend en photo des moutons.
C'est des animaux qu'on ne voit pas aussi proches de nous tous les jours.
Depuis la contestation agricole, elle a changé, dit-elle, sa façon de consommer.
J'occultais complètement la vie des agriculteurs, même leur rémunération. Et l'année dernière, avec les événements qu'il y a eu, c'est ce qui a déclenché mon intérêt pour leurs conditions, en tout cas. Tout ce qui est circuit court, ça m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, on vient d'avoir un enfant et on a choisi une marque pour avoir du lait fermier de nos campagnes, français, bio.
Et les visiteurs, comme Floriane, sont également nombreux à venir découvrir les produits du terroir.
C'est aussi une façon de soutenir les agriculteurs. C'est un métier qui est tellement difficile. C'est aussi une façon de dire qu'on est fiers de leur travail et qu'on est content de les avoir en France.
Elle repart avec un sac empli de fromage acheté aux producteurs.
Mariam El-Kurdi au Salon de l'agriculture qui ferme ses portes dimanche. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Dunkerque, 3e de Ligue 2, affrontera le Paris Saint-Germain, grand favori de la compétition. Cannes en National 2 sera opposé à Reims. Sa équipe de Ligue 1, les matchs auront lieu début avril. Enfin, si le ciel est dégagé ce soir, ne manquez surtout pas le spectacle fabuleux que le cosmos nous offre. Une parade de planètes, les 7 planètes qui, avec la Terre, composent notre système solaire seront visibles, certaines dès le coucher du soleil et à l'œil nu, explique Michel Montargès, astronome à l'Observatoire de Paris.
Quand on regarde le ciel, généralement c'est toujours plutôt face au sud. On commence par l'ouest, ce qui se couche en premier. La première qu'on va voir est la plus brillante de tout le ciel, ce sera Vénus, qui a apparaîtra comme une étoile brillante, blanche, très lumineuse. Ensuite, si on se déplace en remontant vers l'est, on va tomber sur Jupiter qui sera quasiment au zénith, donc juste au-dessus de nos têtes. Un point blanc assez brillant qui ne scintille pas sera Jupiter. Et là, avec des jumelles, on peut voir les lunes qui tournent autour. Et quand on continue vers la gauche, donc vers l'est, on va tomber sur la planète Mars qui sera très orangée. Quelque part entre Vénus et Jupiter, il y a Uranus qui se cache. Mais vraiment, à moins de savoir où elle est et d'avoir un télescope, c'est impossible de la trouver. Mercure, Saturne et Neptune sont tellement proches du Soleil qu'elles vont se coucher avant qu'on puisse les voir. Le mieux, c'est de prendre une chaise longue, de s'installer quelque part avec un plaid, de préférence actuellement, et de voir qu'on voit plein de planètes dans le ciel.
Voilà, un beau spectacle en perspective. S'il fait beau, l'astronome Michel Montargès répondait à Victoire Renard de Winter.
Merci Anaïs Fugas. C'était le journal. Tout de suite, le feuilleton de la France.
Le feuilleton de la France.
Épisode 71.
À l'école d'architecture de Rennes.
Les élèves sont assis sur des chaises hautes autour de grandes tables. Cours de dessin à l'école d'architecture de Rennes. Ils sont une trentaine de lycéens boursiers issus de milieux défavorisés. Ils ont passé une semaine de leurs vacances à se préparer au concours d'entrée à des écoles d'art. Une formation gratuite lancée il y a 19 ans par la Fondation Culture et Diversité. Au générique, Mohamed, Manel, Ouria ou encore Philippe.
Bonjour, on n'a plus qu'aujourd'hui pour faire le rendu, hein ? Donc on essaye de s'y mettre un grand coup pour avoir des belles choses ce soir. Ça marche ?
Les cahiers se noircissent. Crayons et feutres en main, ces élèves griffonnent des feuilles de dessin, sous l'œil de Fabien Groulot. Cet ancien architecte est aujourd'hui scénariste de bande dessinée.
Bon, là c'est bien, ça marche bien. Peut-être tu peux un petit peu accentuer les ombres là-dessus, pour qu'on ait plus de contraste. Comme là, comme t'as fait là en fait, là ça marche bien.
La planche de bande dessinée de Manel prend forme. Pour cette lycéenne de Saint-Étienne, originaire d'Algérie, entrée en école d'architecture.
Ça serait un peu une fierté parce que moi, venant d'un pays étranger, et depuis que je suis petite, je me bats fort pour réussir. Et pouvoir accéder à une école d'architecture, ce serait un rêve d'enfant. Enfin, c'est incroyable.
J'ai trop hâte de voir votre histoire.
Genre le fait qu'il y ait des gros soldats araignées, les lampes déchirées, tout ça, en gros, on a un peu exagéré la situation.
On a bien joué avec les zooms, un peu comme au cinéma, quand il se passe quelque chose et tout. On zoome sur le visage ou sur une partie, ça c'est bien.
Mohamed, 20 ans, je viens de Marseille. Être architecte, c'est pour moi un rêve. C'est quelque chose qui me fascine, que j'aime beaucoup depuis petit. Ça fait 4 ans que je pense que l'architecture, cette idée d'avoir une idée dans la tête et pouvoir l'exprimer d'une façon architecturale, c'est magnifique, c'est formidable.
La plupart de ces lycéens sont en bac professionnel ou technologique, à l'image de Philippe. Originaire d'Angola, le jeune homme est arrivé en France il y a 5 ans. Et plusieurs fois, il a failli baisser les bras.
C'est qu'en fait, quand je suis arrivé en 4e, je disais, ouais, je vais devenir architecte, tout ça, j'étais vraiment motivé. Et après, les gens me disaient, c'est trop dur, c'est vraiment des études très longues, tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, ma motivation, ça a commencé à baisser, à baisser. Mais après, les gens m'ont vu que j'étais vraiment motivé pour ça, et j'ai continué à dessiner quand même.
Justement, ce sont ces profils, comme ceux de Philippe, Manel et Mohamed, que les écoles d'architecture recherchent pour constituer leur promotion. Pierre-Antoine Chabriac est enseignant-chercheur à Rennes.
Nous, ce qu'on cherche à l'école d'archi, c'est d'avoir des étudiants qui viennent de parcours complètement différents. On essaie vraiment d'avoir une hétérogénéité des parcours, que chacun puisse amener en fait ce avec quoi il vient. C'est possible, on peut rentrer en école d'archi avec un bac pro, avec un bac général, avec un bac technique. Et nous, justement, encore une fois, on cherche à panacher au maximum les promotions.
Pendant les vacances de février, 185 élèves de terminale participent à des stages partout en France. À l'école du Louvre à Paris, à l'école supérieure d'art de Caen ou encore aux Beaux-Arts de Nîmes. Lucille Deschamps est déléguée générale des programmes Égalité des chances à la Fondation Culture et Diversité.
La création culturelle française doit s'enrichir de la diversité sociale, géographique, de toute la population française pour enrichir la création artistique et culturelle et ne pas être réservée seulement à une élite. Moi, je pense que c'est la première des discriminations, c'est déjà la connaissance de ces écoles. C'est-à-dire ce sont des écoles publiques, gratuites, qui dispensent le meilleur enseignement dans leur domaine. Et ça, en fait, peu de gens le savent. Et donc, il faut qu'on parle à la fois des études, de ce qu'elles sont, mais aussi des débouchés professionnels.
Près de 50% des lycéens qui participent à ces stages sont ensuite admis dans les mois qui suivent dans une école supérieure des métiers de l'art ou de la culture.
Merci Victor Vasseur. Le feuilleton de la France est à retrouver sur l'appli France Inter. À suivre, Anne-Cécile Maillefer et Aline Afanoukoé.